Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Pour cette émission, nous allons prolonger celle de la semaine dernière comme prévu. Oui, après vous avoir dévoilé les 11 mangas qui sont arrivés en tête de notre top collectif, nous allons vous présenter ceux qui sont passés au travers des mailles de ce collectif si bien rodé. Il y a quand même des titres qu'on a lus et dont le plaisir n'a pas été suffisamment partagé par les autres membres du podcast, ou que ces autres membres n'ont pas eu envie de lire, parce qu'on n'a pas su être convaincant avec eux. On va dire ça comme ça. Nous voilà donc avec une dizaine de coups de cœur perso, de chouchous, rien qu'à nous. D'ailleurs, on vous redonne la liste des 4 premiers du top. Vous vous souvenez ? C'était Kagurabachi, Phantom Busters, Towers Dungeon et Yon de Camille Broutin. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ces 4 mangas ?
Enlever Towers Dungeon et mettre Fabula Fantasia. En fait, s'il y avait eu 2 tomes, je suis sûr qu'il aurait été deuxième.
Il avait qu'à sortir plus tôt.
Je suis pas si sûr que ça. Il y a des ennemis de Fabula Fantasia autour de cette table.
Moi aussi, je voudrais bien ajouter quelque chose. En fait, c'est par honnêteté intellectuelle que j'aimerais bien prévenir les auditeurs que Maxime n'a pas aimé Yon. En fait, c'est ce qu'il vient de nous dire 10 minutes avant qu'on rentre dans le studio.
Call-out.
Des explications, s'il te plaît.
J'ai dit ce n'est pas mon top 1. Ça veut dire que j'ai un top 1 qui est mieux que Yon.
Ah, t'as quand même dit que tu trouvais ça dégueulasse.
Mais ça veut dire... Parce que sinon, il n'aurait pas été collectivement.
Je crois même t'avoir entendu dire, ça se voit que c'est une bonne femme qui a fait ce manga.
Sachant que je call out une deuxième personne, mais Johnny nous a dit la note qu'il aurait donnée à Tower Dungeon s'il l'avait noté. Et s'il l'avait noté, Tower Dungeon aurait été top 1. Donc,
ouais, mais on note pas de manga, pas de chance.
Et surtout, on ne passe pas devant Yon.
Non, mais on va juste retenir que là, c'est les vrais tops. C'est celui qu'on va faire. C'est là, le vrai top.
C'est les vrais tops là, ouais.
Dans la cinquième de coupe, c'est maintenant l'heure d'écouter quels sont nos coups de cœur perso de l'année passée, nos chouchous de 2025.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh les bâtards. Oh this you crazy
mother. Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission.
Salut.
Bonjour.
Ah oui, j'ai cru que vous alliez jamais dire bonjour avant d'eux.
Mais moi, je le fais la gueule en fait. Je le fais la gueule à propos de Yon.
Si vous nous découvrez maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast pour parler de manga. La semaine prochaine, on parle réédition et manga classique. Et puis début février, on s'intéresse aux futures sorties manga de cette année 2026. Et si vous aimez ce qu'on fait, écoutez l'émission, partagez, commentez, on compte sur vous. Nous voici donc maintenant prêts à faire une rétrospective un peu listing, hein, puisqu'on va égrener les mangas coup de cœur des uns et des autres. On en a 2 chacun, il y aura 10 mangas dans cette émission. Cette année, on a aussi décidé, comme l'année dernière d'ailleurs, d'étaler le bilan des ventes sur nos 3 premières émissions de l'année. Donc il y aura aussi quelques petites top ventes dans l'émission aujourd'hui. On commence avec Cagnard, et l'un de ses coups de cœur, c'est un manga qui s'appelle Baby.
Et oui, c'est mon premier coup de cœur, Baby. Alors, pour vous résumer rapidement le bouquin, ça se passe à Taïwan, on est en 2043. Après une invasion de robots parasites qui ont quasiment décimé la population mondiale, on suit Elisa. Bon, Elisa, c'est une ancienne flic. Elle a été infectée par le même parasite, mais elle a quand même réussi à garder le contrôle. Et Elisa va devoir protéger la jeune Alice, qui semble représenter la dernière chance de l'humanité de reprendre le pouvoir.
Cagnard, qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga de Shang Sheng ?
Alors, Shang Sheng, c'est un auteur dont on a déjà parlé, dont moi j'apprécie vraiment beaucoup le travail. Il nous avait déjà régalé avec son triptyque futuro-folkloro-foutraque qui s'appelait Yan.
Qui avait été dans notre top collectif.
Et oui, déjà pas l'année dernière, non ?
Si, l'année dernière.
L'année dernière, ouais.
Il aurait été top 2, lui.
Et là, il revient avec sa série. Alors, c'est sa série précédente. C'est une série qu'il a fait avant Yan. Et ça nous prouve que même en 2008, à l'époque où il a sorti cette série, il était déjà super fort. Je vais vous parler du premier chapitre. Vraiment, tu te le prends comme un splash dans la gueule. T'as hélicoptère, immeuble qui s'effondre, robot géant, flic badass. Ça, c'est le programme du premier chapitre, alors qu'on sait encore rien de l'histoire à ce moment-là. C'est un chapitre qui donne tout de suite le ton. T'as les cadrages, les perspectives, les enchaînements, tout est magnifique et vraiment ce premier chapitre, il t'attrape et il te laisse plus partir du tout.
Et il y a le sujet sous-jacent du manga, c'est quoi ?
Les robots. Okay. On parle des robots. C'est un titre où on parle beaucoup de robots qui parasitent les humains. En fait, on appelle ça des organos. Et je trouve que le nom, déjà, il est particulièrement bien choisi. Alors déjà, t'as les chara-design. Hein. Ils sont vraiment magnifiques. T'as pas deux robots qui se ressemblent. Et c'est très généreux en type de robots différents. Et surtout, moi, le truc qui m'a fait le plus tiquer, c'est qu'ils te donnent vraiment l'impression de robots organiques. Ils ont gardé quelques reliquats de leur apparence humaine. Souvent, tu vois la tête où il y a un bras qui est humain. Et ça leur donne un côté, au final, qui est hyper organique. Et d'ailleurs, en fait, ces robots, ils me rappellent beaucoup ceux de Gun, qui sont pas vraiment des robots, c'est plus des humains améliorés. Mais t'as cette notion d'humain amélioré par la science, mais qui finit complètement dégénéré, tu vois, qui n'a plus aucun sens.
Non, mais tu m'as mis le doute avec Gun, mais en fait, il y a tellement de formes différentes dans Gun.
Oui, mais ce qu'on voit dans Gun, c'est plus des humains qui ont été améliorés et compagnie. Ouais. Là, il y a. Mais en fait,
ils ont été contaminés, quoi, on va dire.
Oui, c'est ça. Là, il y a ce côté où ça reste des humains. En fait, ils ressemblent beaucoup plus à des robots qu'à des humains, mais ils ont des attributs quand même humains qui font que. Tu sais, ça donne un mélange un petit peu bizarre entre la technologie et l'organique aussi, tu vois. Et même dans le comportement des robots, il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'ils m'ont beaucoup rappelé le T-1000 de Terminator 2. Et moi, le T-1000 de Terminator 2, il m'a vraiment traumatisé, mais comme beaucoup. Mais parce que, ouais, Robert Patrick, dans le film, tu sais, il s'arrête pas. Il court, il te lâche pas. Il y a d'ailleurs un film d'horreur qui s'appelle Weapons, que je conseille très fort, qui est sorti cette année, où il y a un peu ce même principe. C'est une entité qui fonce, et qu'importe, on va dire, l'obstacle qu'il y a devant, ou si quelqu'un essaye de l'arrêter, il continuera à avancer. Et là, il y a exactement la même chose. Ça reste, comme je vous dis, cette partie organique que tu vois vraiment. Mais par contre, c'est comme s'ils avaient un programme, c'est les Daleks de Doctor Who, quoi. Mmh. C'est Exterminate, vraiment. Et il y a ce truc que j'adore, où ils avancent sans réfléchir. Et vraiment, ça donne une impression de fuite de la part des personnages. Parce qu'il faut se dire que au moment au début du manga, en fait, l'humanité a déjà perdu. Il n'y a quasiment plus d'humains. Et les quelques humains qui restent, tu vois à quel point c'est compliqué de lutter contre les organos. Et d'ailleurs, après réflexion, ça aussi, ça m'a rappelé Terminator 2. La scène d'intro de Terminator 2, c'est la seule vision du futur qu'on a. Et elle est horrible. Là, on est un petit peu dans cette version-là. T'es dans la ville, mais les robots sont partout et ils vont vraiment te pister et ils vont pas te lâcher. Du coup, il y a vraiment un aspect très, très dramatique et surtout désespoir. On sent vraiment le désespoir des humains face à une force qui les dépasse vraiment. Ils n'ont pas les capacités de répondre ou autre. Et dans cette idée-là, tu vois, ça me rappelait un petit peu l'attaque des Titans aussi, où les humains sont vraiment en galère et tu sens que c'est la dernière chance de l'humanité, vraiment, quoi.
Et est-ce que tu as un petit bonus à rajouter au sujet de Baby avant de terminer ?
Ouais, alors je disais que c'était une série qui date de 2008. Et en fin de chaque tome, t'as le droit à une postface de l'auteur qui revient sur cette série. Mais du coup, il y revient avec son regard actuel. Et je trouve que c'est hyper rare d'avoir un auteur qui te fait une postface et qui revient sur la jeunesse de ses précédents titres, comment il aurait fait différemment certaines autres choses et tout. Et du coup, c'est un petit bonus. Pour le coup, j'ai lu tous les bonus de chaque chapitre.
Baby, c'est aux éditions Glénat. Est-ce que tu as un dernier mot à ce sujet ?
Oui, j'ai un dernier mot à ce sujet. C'est une expression, on appelle ça prime d'intéressement de Robin. Comme vous le savez, Robin est l'éditeur de cet ouvrage et malheureusement, il risque de ne pas avoir de prime d'intéressement cette année. Donc s'il vous plaît, achetez Baby vraiment en masse. Et sinon, en vrai, c'était pour te remercier, Robin, parce que tu m'as littéralement fait découvrir cet auteur dont maintenant j'ai tous les bouquins et je veux le suivre absolument. Donc pour ça, merci.
Pauvre étagère. Tu verras qu'il y a une autre série qui arrive cette année qui s'appelle Old Man, qui est une série qu'il a fait entre Baby et Yann.
On remonte vraiment dans
dans sa biblio. Et là, il travaille actuellement sur la saison 2 d'Yann. Et là, donc je sais pas encore quand ça sort, mais en tout cas, il y a une saison 2. Baby, signé Shang Sheng, c'est en 3 volumes. Robin, je te donne la parole maintenant pour parler d'un manga qui s'appelle Aerio and the Electric Doll. Tout à fait. Un manga de Mujiro Shishimazaki au scénario et Kuro Imori au dessin. On a 3 tomes parus et c'est chez Mangetsu en France. Le pitch, c'est on est dans un futur lointain où l'humanité a dû abandonner l'électricité après une guerre dévastatrice contre des IA. Et dans ce monde, on découvre une jeune fille qui s'appelle Erio et qui vit recluse avec Ange, une androïde qui l'a recueillie et élevée après la guerre. Et Erio, n'ayant jamais connu le monde extérieur, rêve de découvrir ce qui se trouve un peu au-delà des murs de là où elle habite. Elle vit dans une espèce de phare un peu isolée du reste du monde. Et donc un jour, elle décide de partir en voyage pour explorer le monde et percer les mystères de son passé. Donc on va suivre avec ces deux personnages, Erio et Ange, à la fois suivre leur relation, mais aussi découvrir un petit peu plus ce monde qui a des accents steampunk, on pourrait dire.
C'est ça, c'est un manga steampunk, Erio and the Electric Doll. Et qu'est-ce qui t'a plu dedans? Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans ton top perso?
Bah, on en a déjà parlé parce qu'on avait consacré une émission qui s'appelait Le paradoxe du steampunk en manga. Et justement, on était tous assez d'accord pour dire que ce titre avait une manière de s'emparer de cette iconographie un peu éculée qui est celle du steampunk, avec voilà les rouages, les tuyaux qui fument et tout, mais pour amener justement le récit dans quelque chose de beaucoup plus original que ce qu'on a l'habitude de lire dans ce genre-là. Et ça amène vraiment une réflexion sur le progrès, bah les IA. Bon, les IA, c'est assez peu traité au début, mais en tout cas, on sait que le terme est mentionné, donc on se doute bien que ça va prendre de l'importance. Mais aussi, bah voilà, l'humanité, le pouvoir aussi, parce que y a, voilà, on parle d'un monde sans électricité, mais on se rend compte qu'en fait, elle n'a pas totalement disparu et qu'il y a certaines personnes qui peut-être en ont gardé le secret, etc. Donc c'est plus presque un manga post-apocalyptique que purement steampunk, mais en fait c'est un manga où la civilisation s'est recréée à partir d'une apocalypse, et comme elle a un peu abandonné l'idée d'avoir des technologies avancées, elle est revenue à une époque, on pourrait dire, de technologies plus soft, qui l'amène du coup à avoir bah voilà, un décorum steampunk quoi.
Ça, c'est l'univers, et pour les personnages.
Et voilà, après, ça, c'est vraiment l'univers qui est intéressant. Mais ce qui est super aussi dans l'histoire, c'est qu'on a vraiment envie de suivre ces personnages. Je trouve que Erio et Ange, elles ont un duo vraiment hyper attachant, très, très complémentaire aussi, parce qu'on a donc Erio, qui est une jeune femme très enjouée, très dynamique. Enfin, voilà, très, on pourrait presque dire Neketsu, mais pas tout à fait. Mais je veux dire, vraiment ce côté un peu naïf, innocent, qui a envie de découvrir le monde. Et en même temps, on a Ange, l'androïde en face, qui est une espèce de figure d'une jeune femme assez parfaite, le physique voilà très bah c'est un androïde quoi, donc il a été créé tel que la perfection humaine doit être, et en même temps du coup elle a un visage hyper impassible, et en même temps elle a des réactions parfois un peu naïves aussi, un peu surprise, mais en même temps voilà, avec ce décalage qu'il y a entre son apparence et les réactions qu'elle a, crée des situations hyper attachantes et parfois assez marrantes. Et voilà, du coup, je trouve que ce qui est vraiment la force du manga en général et de ce manga, c'est qu'on découvre l'univers avec ces personnages et on a envie d'en savoir plus à la fois sur les personnages et sur l'univers, quoi.
Graphiquement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça peut... qu'est-ce que tu peux en dire?
Bah, c'est aussi une force du titre, c'est très élégant, ça se voit dès la couverture du tome en tout cas est très belle, avec toute une compo sur justement l'imagerie steampunk, les rouages et tout. Donc c'est très, 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 très élégant, très beau, et c'est très mis en valeur par l'édition qui est grand format, qui nous permet un peu aussi de plonger là-dedans. C'est Kuro Imori, l'autrice, elle avait fait un recueil plutôt d'illustrations, on va dire, avant, qui était dans cet univers aussi steampunk. Donc je pense que c'est aussi pour mettre en valeur les qualités illustratives de l'autrice. Et je trouve que voilà, c'est aussi très agréable à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a juste, pour moi, des petites fautes de goût, voire des grosses fautes de goût niveau fanservice un peu cringe, du fait que c'est des jeunes femmes et que des fois, bon, on les montre dans des positions ou des situations que t'as pas forcément envie de voir, mais...
T'es bien placé avec Baby, dis donc.
Oui, mais c'est pas une jeune, c'est une adulte.
Effectivement. Ça ne pardonne pas pour autant.
Mais voilà, donc dès le chapitre 1, t'as quand même deux jeunes femmes qui... Enfin, une jeune femme qui embrasse sur la bouche une autre qui lui a rien demandé. Donc bon, t'as des situations un petit peu bizarres comme ça, mais... Au final, je trouve que la lecture emporte le truc et fait qu'on a quand même envie de suivre la chose, et ça reste quand même très très beau graphiquement, quoi.
Je vous redonne le nom, Erio and the Electric Doll. As-tu un dernier mot à son sujet?
Alors, ouais, en point bonus, bah, j'ai retrouvé une interview des auteurs qui étaient venus en France lors d'une journée presse sur la Tour Eiffel, excusez du peu. On a vraiment mis les petits plats dans les grands pour les accueillir dans un environnement steampunk. Et donc il y a notamment une interview qui est dispo sur internet, qui a été conduite par Manga News, le Journal du Japon et je ne sais plus quel autre média, je m'excuse. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir aussi des vraies interviews avec du fond, parce qu'au final l'interview elle est pas hyper longue, mais elle distille quand même des infos assez intéressantes sur les intentions des auteurs, justement Bon, bah, justement, comme le terme IA est mentionné dans l'histoire, les journalistes leur posent la question sur ça et on, voilà, ils donnent leur avis là-dessus. C'est assez intéressant. Justement, est-ce qu'ils considèrent que c'est un manga de genre steampunk et a priori, ils disent pas. Ils disent que ce n'en est pas. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent déconstruire aussi l'image qu'on se fait du manga. Et ça parle aussi de leurs références. Alors, le scénariste lui dit qu'il aime beaucoup le Yuri. Bon, ouais, c'est un peu aussi, on pourrait dire, un Yuri soft, quoi. Et l'autrice, elle nous parle de ses références visuelles, donc t'as du Final Fantasy, t'as du Miyazaki parce qu'il est toujours là dès qu'on parle de steampunk, et il y a Edouard Riou. Alors ça, j'étais plus étonné de le retrouver, c'est un illustrateur de Jules Verne du 19e siècle, tu vois, c'est comme quoi c'est assez intéressant aussi d'avoir des auteurs japonais qui parlent de leurs références occidentales.
T'as pas dit ça fait combien de tomes au final?
Et oui, alors du coup je suis tombé sur une info comme quoi la fin est déjà annoncée au Japon, donc ça devrait être une série courte, 44 chapitres, donc 5 ou 6 volumes maxi, là on en a déjà 3 en France, donc ça devrait se finir cette année, quoi.
Eryo and the Electric Doll. Avant de passer à la suite et de parler du manga Rurouni Dragon, on va faire le petit classement éditeur, un premier point vente dans cette émission. Le classement éditeur de manga en France, bah, il n'a pas beaucoup changé. Hein. Le top 10, même le top 4, c'est le même. Hein. Glénat, puis après, il y a Pika Kiun Kana dans un mouchoir de poche, exactement. Puis Kurokawa, alors on les mettait pas avant, mais maintenant on les a intégrés. Il y a Kabooks qui fait 6e.
Wow. Ouais, solo leveling, quoi. Tu n'es pas obligé de mettre le nom de l'éditeur, c'est vraiment solo leveling et 6e.
Ouais. C'est fou en tant que t'es 6e, tout
c'est clair. Crunchyroll, casé à l'avenir, 7e.
HarperCollins.
8e, Delcourt et Panini. 10e, Nobi Nobi. Et puis, j'ai mis Michel Lafon, mais on peut aussi dire Instinct, à la 11e place.
Instinct édition.
Ouais, mais du coup, t'aurais pu mettre Delcourt Kabooks en 6e, quoi.
Du coup, on aurait pu mettre Delcourt Kabooks en 6e. Peut-être que Delcourt plus Kabooks, ça serait devant Kurokawa.
Ça remonte, ouais.
Ah ouais?
J'ai pas mis les groupes. Parce que dans ce cas-là, si tu mets les groupes, tu ajoutes Mangetsu à Pika et à Nobi Nobi. Donc du coup, ça fait un autre champion. Mais bon, c'est des équipes à part dans chacune de ces maisons d'édition.
Mais attendez, Kabooks. Solo leveling, ça continue encore?
C'est bientôt la fin, là, tome 18, je crois.
Ah d'accord, c'est encore en cours.
Mais après, ils se vendent toujours.
Oui, non, mais ça, j'en doute pas.
On va justement en parler tout à l'heure. Johnny, ton premier coup de cœur dans cette émission, c'est un manga qui s'appelle Rurouni Dragon.
Rurouni Dragon, 2 tomes chez Glénat, Masaoki Shindo, il y a 4 tomes en cours au Japon. Pitch, une lycéenne ordinaire voit sa vie chamboulée quand elle se réveille avec des cornes sur la tête. Spoiler, c'est dans le titre, elle apprend qu'elle est mi-humaine et mi-dragon.
Oui, c'est assez simple et on le sait assez vite. Voilà. Qu'est-ce qui t'a séduit dans Rurouni Dragon?
Et ben, ce qui m'a séduit, en fait, c'est le côté assez chill. On avait déjà fait pareil une émission dessus. C'est très chill et décalé. Déjà, c'est vraiment bizarre parce que tout le monde trouve ça presque normal, en fait, qu'elle ait des cornes. Genre, t'as des cornes. Ah ouais, super. Bon, ben, on continue notre vie. Et au final, on va voir que c'est un parallèle, surtout entre la découverte de ses pouvoirs, mais qui sont très limités, hein, parce qu'on n'est pas dans un shonen neketsu. Mais on va voir que elle a plus ou moins 9 capacités possibles. Pour l'instant, il y a que l'électricité et le feu qu'on a vu, mais au final il y a ce parallèle entre découverte des pouvoirs et découverte de l'adolescence, la découverte de soi et de son entourage, et c'est ça qui m'a plu, en fait. C'est le côté où on se prend pas la tête, on lit et puis on y va, quoi.
Tu veux dire le côté tranche de vie?
J'ai pas dit les mots. Merci Kanya, parce que j'allais exactement poser cette question là aussi.
Non, mais c'est, en fait, moi j'ai des périodes, je pense, dans l'année où il faut que je lise des trucs tranquilles, et Rurouni Dragon est tombé pile à ce moment-là.
Est-ce que tu peux nous indiquer ces périodes, s'il te plaît? On se prépare à l'avenir.
Souvent avant Noël. Hein.
Ouais, c'est ton mood de Noël.
Parce que toute l'année, j'ai bûché là, pour avoir du combat. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ça fait trop mal à la tête. Et donc, j'arrive sur une période chill. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième coup de cœur qui aurait dû être top 2, je pense, pour les meilleurs mangas 2025. Mais Rurouni Dragon, il reste dans cette période-là. Mais je me trompe peut-être, parce qu'a priori, j'ai lu quelques commentaires sur Reddit sur le tome 3 et 4, où a priori c'est plus aussi Love, Peace and Chill.
Ah, c'est plus Chill Dragon.
Il y a un mouvement un peu plus grand qui s'emballe.
En même temps, t'attends que ça quand tu lis le début, tu lis les deux premiers tomes, tu dis, il y a un moment donné, il faut accélérer.
C'est ce que je me suis dit, c'est 2 tomes, mais vraiment, le tome 2, c'est exactement la même chose que le tome 1, et c'est un peu révélateur de ma lecture. On est vraiment dans un truc peace, love and chill. Il y a pas de...
Mais je pense qu'il y a un truc en plus qui fait que c'est pas une tranche de vie comme les autres. C'est surprenant, quoi. Je trouve que finalement, moi je trouve justement le truc, tu t'attends à ce que il se passe des trucs parce que elle a des pouvoirs machin et tout, mais en fait à chaque fois il se passe pas ce que tu t'attends quoi, et ah oui, c'est non, ça qui me tient moi je trouve aussi dans
bah, moi ce qui me tient aussi c'est que c'est vraiment la tranche de vie où t'es focalisé sur ce personnage qui d'ailleurs c'est ce qu'ils disent dans le tome 2, en fait ça intéresse à personne, elle vit sa vie et tout d'un coup elle va s'ouvrir aux autres d'une certaine manière, mais avec son opposé, sa rivale qui va lui dire tout de suite ces quatre vérités en disant je t'aime pas parce que justement tu t'intéresses à personne, et elle veut savoir pourquoi. Oui c'est vrai, je m'intéresse à personne, mais tu m'aimes pas juste pour ça, et en fait elle lui donne toute sa liste, et je trouvais ça assez intéressant de voir ça dans ce récit, parce que la meuf elle sait pas pourquoi elle aime pas, pourquoi elle est toute seule, pourquoi elle a pas d'autre entourage, enfin, bref. Et le tome 1 et tome 2 est un peu axé sur ça, mais a priori, tome 3 et 4 changent un peu.
Le tome 3 sort le 18 février, oui. Pour Ori Dragon, a-t-il eu un petit point bonus?
Bah ça, c'est un peu mon problème, c'est que j'étais déçu d'avoir que deux tomes. Le point bonus, c'est que le dessin, il est assez stylé, et c'est bien d'avoir deux tomes, mais j'aurais voulu 6, ça aurait été cool.
et ah bah tu veux que le scénar démarre,
c'est
quoi.
C'est le point bonus. Ouais, ouais.
Sans transition, l'auteur était un ancien assistant de Deichiro Oda.
Très bien, c'était une très bonne...
voilà, il n'y a pas de transition.
Très bon flash info.
Très bon sans transition.
Pour actualiser, Maxime.
Ruri Dragon, donc, de Masaoki Shindo. Allez, le dernier mot pour toi, Joe.
Sa carrière a commencé très tôt, à 17 ans. Alors, dernier mot pour moi, bien sûr, on s'y attendait parce qu'il y a beaucoup de succès. Il y aura une adaptation en anime par Kyoto Animation, donc, qui est quand même très connue, vu qu'ils se sont occupés de La Mélancolie d'Haruhi, Silent Voice, Full Metal Panic ou encore Free. Et donc, on ne sait pas, par contre, quand est-ce que va être prévue cette adaptation en anime. On espère que ça se passe cette année, mais on a vu une petite scénette dans la bande-annonce pour la bonne année de 2025. Donc, voilà.
C'est comme Ghost in the Shell, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir, mais ça sera cette année aussi. Ori Dragon à l'instant, et place à mon chouchou, à mon premier chouchou à moi, qui s'appelle Elena and Mr. Wolf. Elena and Mr. Wolf, c'est un diptyque assez à part, une œuvre j'ai écrit douce, amère, qui parle de deuil, qui parle de création, qui parle aussi de reconstruction, qui tombe pas dans le pathos, qui a été écrit et dessiné par Bliss, une autrice taïwanaise, et c'est publié en France chez Mao Édition. À l'origine, la série est parue à Taïwan, où elle a eu un bon succès critique, avant ensuite d'être publiée au Japon chez Kadokawa, puis ensuite dans le reste du monde. Donc Elena, Mr. Wolf, ça parle de quoi? On est dans un monde qui est à la croisée, c'est comme ça que moi je le définis, mais on est en gros à la croisée du 19e siècle et de nos jours, de maintenant quoi. On est vraiment sur... on est à la croisée de
on dirait un rendez-vous free, perso.
Tu veux dire en 1950 ou...
Oui, c'est pas très précis, ça fait une large...
Il y a une très grande marge, mais parce qu'en fait il y a des choses... de plusieurs univers. Okay. C'est créé, ça peut être contemporain, mais en même temps, ça ne l'est pas. Mais bon, bref. On rencontre Elena, donc une orpheline qui est passionnée de livres et de dessins. Et pour protéger son petit frère, Arthur, et puis survivre dans un quotidien très brutal, elle se réfugie dans les histoires et dans l'imaginaire. Mais la réalité va finir par la rattraper de plein fouet, bien comme il faut, jusqu'à une révélation tragique qui fait donc voler en éclats un équilibre déjà bien, bien triste. En parallèle, il y a Mr. Wolf, un auteur de livres illustrés aussi talentueux que reclus, caché derrière un masque de loup, qui est solitaire, qui est en panne d'inspiration, qui est enfermé dans ses tourments. Il doute autant de lui-même que de ses créations, et le récit donc parle de la rencontre de ces deux personnages, qui est une rencontre qui arrive presque par hasard, et évidemment cette rencontre va bouleverser leur vie respective. Et on découvre donc ce lien entre une enfant cabossée, un artiste brisé, et ensemble ils vont apprendre à faire face à la douleur plutôt qu'à la fuir.
Oui, c'est un gros pitch comparé à Ruri Dragon. Toi.
Ah oui, ouais, il y a un peu plus à dire en effet.
Alors que pourtant il y a deux tomes, non?
Il y a que deux tomes en effet, c'est un diptyque.
Mais qu'est-ce qui t'a plu là-dedans dans ce pitch énorme?
L'histoire est ultra humaine, profondément humaine. C'est raconté aussi avec une certaine pudeur. La série parle du deuil, elle parle du traumatisme, elle parle de résilience. Et c'est énormément à hauteur d'enfant. Et ça force pas l'émotion. Et ça, c'est important pour moi. On n'essaye pas de me faire pleurer. Pourtant, à un moment donné, t'es pas bien quand tu le lis. Et Elena, elle est attachante, elle est innocente, elle est expressive, elle est dynamique, elle est très déterminée, elle est pleine d'imagination. Et avec ce qu'elle vit, c'est très, 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 très fort. Et Mr. Wolf, lui, est tout aussi marquant parce qu'il a un masque de loup. C'est vraiment un mec, il a un masque de loup tout le temps. Et ça met une distance. Ça te met une distance avec le personnage. T'as son attitude qui, elle aussi, est très distante. Du coup, on devine qu'il va pas bien dans sa vie. Déjà, en général, tu te balades pas avec un masque si tu vas bien.
Mais il n'enlève jamais son masque. T'as jamais vu sans masque.
Je okay, te donne pas la fin du manga, mais et puis il y a la question de la création, de la culpabilité, de l'échec, du rapport à l'imposture aussi qui est assez importante dans ce manga pour lui en tant qu'auteur, qui est un auteur à succès en plus. Hein. Et son rapport à la création va faire écho à Elena et à son amour pour les histoires, pour l'imaginaire, avec l'art qui devient donc d'un côté un refuge pour s'échapper de la réalité, mais aussi un moyen pour affronter cette réalité qui est vraiment bien sauvage, avec un dessin qui est très chouette pour véhiculer cette émotion. Il y a quelques variations de style d'ailleurs, assez juste, parce que par moments on a l'impression d'être un peu dans un conte pour enfants, puis d'autres on est vraiment totalement dans un manga. De ce côté-là, c'est assez bien fait, donc voilà. Elena et Mr. Wolf, c'est mon petit coup de cœur de cette année.
Un petit point bonus pour Elena.
Oui, l'objet, c'est réussi. Papier agréable, effet de vernis, des petits bonus, ça donne du cachet, et en plus il y a un coffret en deux tomes, une sorte de collector où tout est dedans, donc t'as les deux tomes et t'as des petits bonus, t'as un petit shikishi, des petits ex-libris, bref les bonus qui vont avec. Et de toute façon, enfin, n'achetez pas que le tome 1, enfin, si tu commences, faut lire les deux, donc autant prendre le coffret, au moins t'as les bonus, quoi.
C'est trop cher, numérique.
Elena et Mr. Wolf, donc signé Bliss, et c'est aux éditions Mao. Julie, c'est à ton tour, je te propose de parler de ton premier coup de cœur.
Alors moi, je parle des Guerres Invisibles de Marina Lisa Komiya, qui est donc terminée en deux tomes, que ce soit en France ou au Japon, puisque donc le tome 2, il sort cette semaine. Hein, donc tout ça pour dire, alors on en avait déjà parlé, mais ça raconte l'histoire donc du Japon juste après la guerre, à la fin de la guerre, quand Tokyo, dans un Tokyo en ruine, Yuriko revient de la campagne où elle avait été exilée par sa famille, où elle a perdu tous ses proches, et elle revient chercher son amour qui est Haru. Sauf que Haru ne lui a pas laissé beaucoup d'informations, si ce n'est qu'elle a choisi de se marier avec un officier américain d'origine japonaise qui s'appelle Arthur.
Et qui n'est pas le petit frère d'Elena de mon manga.
Ah
hein.
Non,
rien
on est
à
sur
voir.
Deux timelines assez différentes. Et Arthur, bah, lui, il a également des difficultés, puisque donc, est-ce qu'il est japonais, est-ce qu'il est américain ? Il est toujours en fait sur le fil, en train d'hésiter. Et bah, Yuriko, quant à elle va être livrée à elle-même et elle va devoir chercher comment survivre. Mais le hasard va faire qu'elle va rencontrer un autre jeune officier américain qui s'appelle Scott, qui lui n'a pas du tout d'origine japonaise, mais qui, alors qu'ils apprennent, elle va essayer d'apprendre l'anglais, lui va essayer d'apprendre le japonais, et petit à petit, il va lui proposer un étrange marché, et au final, ils vont eux aussi aller s'installer aux États-Unis.
Qu'est-ce qui t'a plu dans les Guerres Invisibles ?
Alors, c'est déjà un manga qui permet de voir un Japon qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. En tout cas, en manga, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment une première. Et même dans d'autres productions culturelles. Puisqu'il y a vraiment ces deux axes qui se croisent, qui est donc le prisme queer. Clairement, on a donc une romance lesbienne, mais également on va découvrir qu'il y a un des protagonistes masculins qui est sur des questions d'identification sexuelle, on va dire. Et il y a également ce regard décentré sur le Japon, puisque donc la personne qui a créé ce manga a elle-même vécu aux États-Unis tout en ayant des origines japonaises. Maintenant, elle est retournée vivre et travailler au Japon. Et je trouve que ça donne un mélange, mais incroyable, très vivifiant, quoi.
Ouais, parce que c'est pas du tout un manga qu'on imagine dans les grands magazines au milieu des blockbusters, quoi.
Ben non, pas du tout. Et puis c'est pas un manga en fait de mangaka, j'allais dire. C'est dans le sens où, c'est pas un manga d'industrie. C'est pas une commande. Il est effectivement donc prépublié chez Torch, qui est plutôt sur une vague de du manga indé, on va dire, ou un peu plus confidentiel. Et on a quelqu'un qui travaille en tant qu'artiste, qui va donc créer cette histoire vraiment dans une démarche biculturelle, de vraiment rechercher à la fois son côté japonais, toute la richesse qu'elle peut aussi avoir du côté de son histoire américaine. Et c'est vraiment, c'est assez percutant en fait. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de, d'autres mots que, ce, que de dire que dès les premières pages, on est frappé par la justesse de, du récit et de, du ton qu'elle donne à cette histoire.
Les Guerres Invisibles, donc aux éditions Saka, enfin aux éditions Casterman, dans le label Saka. Est-ce que tu as un dernier mot à son sujet ?
Ben oui, parce que franchement, faut pas hésiter à se jeter dessus. Alors déjà, j'ai essayé de faire attention, mais donc c'est donc Marina Lisa Comilla, elle est, c'est une personne qui se définit comme non binaire, donc il faudrait parler de d'elle en utilisant le pronom yel, ce qui est vraiment pas difficile, enfin pas difficile en japonais ou en anglais, et mais qui nous français nous confronte à certaines limites du langage quoi. Mais sinon, enfin si vous n'êtes pas rassuré, dites-vous quand même que c'est un manga qui a été dans le Kono Manga Gasugoi 2025. Alors, il a été à une très bonne place, il était 9e pour tout ce qui est manga féminin. Et là où je disais tout à l'heure, voilà, c'est vraiment un objet vraiment très intéressant. D'un point de vue culturel, c'est que le tome 2 là, qui vient de sortir, eh ben, il sera en sens de lecture occidentale pour faire comme un miroir avec le tome 1 qui était en sens de lecture japonais.
Si vous écoutez l'émission le jour de sa sortie, c'est demain la date
oui,
de publication du tome 2. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous écoutez que le lendemain, ça y est, c'est disponible et c'est en librairie. Ça s'appelle Les Guerres Invisibles.
Si vous l'écoutez encore après, du coup, c'était hier.
C'est le 21 quoi, que ça sort, 21 janvier.
Merci.
À toi je te laisse t'arranger avec ton calendrier. Tu fais comme tu veux.
Okay.
Je vous propose maintenant un petit top. Je crois que c'est un des tops qui te plaît le plus, Joe. Oui. C'est le top des mangas qui coûtent un bras et le top des coffrets.
Alors, j'adore ce top, mais il m'a fait peur parce que moi j'achète plein de trucs sans regarder le prix. Et je viens de voir que le coffret collector d'Hunter x Hunter est tome 38 et 3e. Et je me suis dit, merde, mais j'ai payé combien ? J'ai pas regardé.
Bonjour. Ça dépend de ce qu'on appelle un bras.
Oui, voilà. Bah, mais tu as plein de bras.
Mais quand je vois son levelling, je me suis dit, merde.
Non, mais il est coffret à 15 balles, quoi.
Non, mais il regarde même plus le prix des trucs qu'il achète. Comment tu veux que les auditeurs nous trouvent encore, tu sais, à leur niveau humain ?
Parce que parfois, j'ai peur et du coup, j'achète et je fais, bon, bah, c'est Hunter, toi, je le prends. Mais j'avoue, j'ai pas regardé le prix.
Il a mis ta carte.
Tu sais, 15 balles pour un bouquin, c'est un prix. Hein.
Non, mais tu m'as fait peur.
Oui, c'est un prix.
Ça allait être 50, tu vois.
Bon, le numéro 1 de ce top, c'est évidemment Berserk.
Édition prestige.
La nouvelle édition.
Perfect.
On a l'édition aussi de Solo Leveling qui coûte cher, qui est deuxième, évidemment. D'où la place de Kabux tout à l'heure.
Mais du coup, c'est le tome 1 de Solo Leveling, coffret collector.
Alors, en fait... Je vous ai passé parce que numéro 1 c'est Berserk, numéro 2 c'est Solo Leveling, numéro 3 c'est Berserk, numéro 4 c'est Solo Leveling, numéro 4 c'est Berserk, numéro 5 c'est Solo Leveling.
On
devrait aussi faire un top des mangas les plus lourds. Parce que tu vois, à mon avis, il y a Berserk dedans.
On n'a pas de stats sur les poids, mais ça pourrait être très intéressant, en effet.
Un kilo, quoi.
Et donc, troisième, une fois qu'on a passé Berserk, Solo Leveling, derrière, on a le coffret collector de Hunter x Hunter. Ensuite, on a le coffret, le gros coffret des carnets de l'apothicaire, celui du volume 15. Oui. Celui-là était bien costaud.
C'était quoi ? Il y avait un bento dedans ?
Il y avait tout dedans. Il y avait tout. Il y a l'édition Grimoire.
Il rigole, mais il y a vraiment eu un coffret avec un bento.
Non, mais je te crois complètement. Il y avait tout. Il y a une perceuse dedans, il y a un bento.
Mais c'est tellement.
Tu vas leur donner des idées.
Ils ont mis un saumon entier, tu vois. Dans le...
génial.
Pour le tome final de Vinland Saga. Cinquième, l'atelier des sorciers, l'édition Grimoire. Sixième, le coffret final de My Hero Academia. Le coffret édition plus ultra.
Oh là, vous en dites pas grand chose de ça.
Il était très bien.
Et bah, il était imposant par contre.
Ah ouais.
Quand je suis allé le chercher là, j'ai fait oh putain, j'en ai pris deux, mais pourquoi?
Oui, c'est vrai, pourquoi?
Pourquoi?
Pour en offrir un à quelqu'un.
Ce que j'ai pas déterminé encore.
Septième, on a le coffret du volume 15 de Spy Family. Huitième, on a la dernière édition du Goldorak de Bajram d'Horizon. Neuvième, on a les chats d'Ultar, de Tanabe, de Gutanabe, reprise de la collection Lovecraft. Dixième, le voyage de Shuna. Onzième, le Dragon Ball Full Color. On comprend pas. Douzième, la nouvelle édition de Helsing. Et treizième, l'édition prestige de Jujutsu Kaisen.
Eh ben, ça en fait, ça en fait des gens. Oui. Ça fait partie des 35 000 euros qu'on aurait dû acheter.
Exactement.
C'est à cause d'eux, les 35 000 euros.
Je crois que je n'ai vu aucun
sens. Sans ces gens-là, on serait seulement à 30 000.
Oh bah, t'as vu le Berserk quand même, non?
Ah si, moi je les ai vus.
T'as vu le voyage de Shuna, non? Même pas.
Non, non, non.
Si, on était à côté. On était ensemble dans la librairie.
Bah oui, mais j'ai regardé.
Il y a le voyage de
Shuna. Mais
t'as regardé à côté. J'étais en train de regarder les sandwichs.
Deuxième coup de cœur, t'avais dit qu'il aurait dû être second. Pour le de coup, toute notre liste.
Eh, vrai, j'espère que là, c'est un vrai shonen. Là, pour
c'est
le
un vrai top 2. J'ai
un
écrit,
vrai shonen qui frappe. Hein,
j'ai écrit beaucoup trop de choses dessus. Effectivement,
ça s'appelle Bloom.
Bloom, et c'est pas une tranche de vie. Vous allez voir, je vais vous faire un petit pitch. Bloom, Shinobi Nomi, auteur Saka Mikami. Donc, c'est un Roméo et Juliette, version scolaire japonais. Il n'y a pas de suicide ou autre, comme dans Roméo et Juliette. On a Rintaro, qui est un élève dans une école un peu miteuse, qui se trouve juste à côté d'une école méga élitiste pour filles, où se trouve Kao Ruko, et les deux vont se rencontrer et s'aimer. Voilà, fin.
Très bien, et donc ce n'est pas une tranche de vie.
Non, non, bah, là, tranche de vie, là on est sur du thriller plutôt.
Alors, c'est censé être une comédie romantique, et en vrai, j'avais pas d'attente hein, sur ce titre, et parfois c'est un des meilleurs arguments que je peux avoir pour commencer une série. J'ai hésité parce qu'au final, j'ai appris que c'était quand même une sorte de blockbuster, mais j'ai pas du tout vu les milliards de critiques qu'il y avait. J'ai lu sans pression et sans avoir lu le pitch, juste que c'était une romance lycéenne et avec une belle couverture.
Pas dans le top vente la semaine dernière, il était dans le top 10 des meilleurs lancements.
Mais ça m'étonne pas. Déjà, ça m'étonne pas quand je me suis lancé, je me suis dit bon bah je vais lire deux tomes et puis finalement j'ai lu les six, mais surtout après j'ai regardé, ah oh, putain au Japon ils sont 23, ouais, ça fait beaucoup, et je me dis mais je comprends pourquoi, parce que du coup j'ai lu les six sans me prendre la tête, et j'avoue c'est un de mes titres vraiment assez incroyable, enfin vraiment coup de cœur pour le coup. Lui c'est assez profondément dans mes émotions. On n'est pas dans une rom-com classique. On n'est pas dans un harem avec un triangle amoureux. C'est vraiment une romance entre deux personnes. L'amitié, bien sûr, autour de ce couple. Et c'est le truc qui m'a plu d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de détour dans la romance. Très vite, les deux personnages affirment leurs émotions amoureuses, même si au tome 3, bon, bah, le mec est toujours un peu à la traîne. Mais on va au-delà d'une rom-com classique. Les émotions abordées sont parfois vraiment très dures. L'exemple dans le tome 2 avec Subaru qui a un mal-être, mais tellement extrême, où tu te dis putain, c'est pas possible, des gens pensent comme ça. Et après, je peux comprendre, parce que c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment de ne pas faire les choses bien, de se sentir toujours coupable. Et au final, tu te rends compte que c'est ça. C'est le manga, c'est l'affirmation de soi, la prise de confiance en soi. Et c'est assez important à l'époque où l'on vit dans la société patriarcale actuelle. Et moi, la scène 2, elle m'a beaucoup touché parce que j'avais une pote au taf qui était un peu comme ça. Et je lui avais dit de but en blanc à l'époque, c'était il y a 5 ans, je fais putain, mais vous, les femmes, c'est horrible ce manque de confiance en vous que vous avez. Et bon, c'était dit assez maladroitement parce que moi c'était ma pote, donc je lui disais ça comme ça.
Oula, oui. Elle t'a bien envoyé chier.
Non, elle m'a pas envoyé chier parce que c'était sur un truc PowerPoint de merde, mais je l'ai revu 5 ans après. Elle m'a avoué que cette phrase que je lui avais dite à ce moment-là, il y a eu un déclic dans sa vie. Et à partir de là, franchement, son dénigrement de soi au travail, en tout cas, a nettement évolué. Et alors, c'est pas pour dire que je l'ai aidé là-dessus. Mais
tu aides les femmes.
C'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que c'est vrai qu'il y a des moments dans ta vie où il faut que tu entendes quelque chose pour avoir ce déclic. Et c'est elle qui me l'a dit. Donc là, pour le coup, moi j'ai pas cherché plus loin. Et c'est vrai que j'avais certainement mal dit à ce moment-là. Mais j'y réfléchis de plus en plus. Et je me dis, il y a un truc qui a été peut-être à cause forgé dans cette société patriarcale, mais bon, voilà. En tout cas, dans ce tome 2, moi j'ai adoré ça. Et j'aimais pas le design du héros parce que avec des boucles d'oreilles à chaque oreille, je trouvais ça un peu moche. Bah, après, on comprend pourquoi, parce que tu suis
les Potara de Dragon Ball.
Ouais, mais en fait, c'est pareil. Et tu l'apprends, et c'est des questions d'émotion, c'est des questions de confiance en soi, et ça évolue très vite là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que tout est centré sur l'émotion, les sentiments, le dépassement, mais au niveau vraiment sentimental. Et à aucun moment, et je m'en suis rendu compte très tard, il y a zéro fanservice. Quand je dis zéro, c'est que j'ai repris tous les tomes, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de petite culotte, il n'y a pas de plan bizarre, il n'y a pas de tout ce que tu veux. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça très
rafraîchissant,
très pur et innocent et rafraîchissant. Je me suis dit, putain, mais en fait, ça fait du bien d'avoir un titre où tu poses même pas la question. Mais c'est vrai qu'au tome 5, je me suis dit, c'est bizarre, mais il y a quelque chose, je touche quelque chose. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait, putain, mais c'est pour ça. En fait, tu lis un titre qui est tellement pur dans ses émotions, et que t'as pas besoin de ça pour continuer. Et moi, Bloom, j'avoue, ça m'a vachement surpris là-dessus. C'est pour ça que j'ai pu lire les 6 tomes d'un coup sans me prendre la tête. C'est que tu verras zéro fanservice.
Même pas une petite sortie à la piscine.
Zéro. Ils vont à la mer. ils sont les pieds dans l'eau, ils sont tous en pantalon ou en robe longue. Et honnêtement, c'est très bien comme ça, parce que c'est pas ça le but du manga. Le but du manga, c'est un couple qui se découvre à l'adolescence, ils sont au lycée. Et d'ailleurs, tu as une des questions qui est abordée, c'est quoi sortir ensemble ? Et ça correspond tout à fait à la collection Genki dans Nobidomi, qui peut se lire plus ou moins à partir de 14 ans, parce que c'est ces questions-là que tu te poses justement à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça incroyable d'avoir ce titre Bloom, et je comprends pourquoi c'est un blockbuster. Du coup.
Qui a été en plus soutenu par la sortie de l'animé l'année dernière.
Oui, l'année dernière, et c'est arrivé sur Netflix depuis septembre, ça c'est le petit point bonus. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est très beau, mais c'est bizarre parce que j'ai voulu voir où il s'arrêtait. Et il s'arrête là où je me suis arrêté au tome 6. Et je fais, putain, mais 12 épisodes en 6 tomes, c'est très rapide.
Mais tellement voilà. Déçu.
J'étais un peu déçu.
Ça s'appelle donc Bloom. Et c'est aux éditions Nobinobi. Le dernier mot est pour toi.
Une petite info en plus. Merci Nobinobi d'avoir traduit Bloom. Parce que le titre, ça s'appelle Bloom. Mais en japonais, c'est Kaoru Anna wa Rinto Saku. Littéralement, la fleur parfumée fleurit avec dignité. Bon, alors, c'est un jeu de mots, certainement, parce que la fille s'appelle Kaoruko et du coup, le garçon s'appelle Rintaro. Mais Bloom, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus rafraîchissant. Alors, Bloom, en anglais, ça veut dire floraison, épanouissement, une petite traduction.
Merci, Joe.
Je vous en prie.
Deuxième coup de cœur de mon côté aussi. Et on va à Taïwan également, comme pour Elena et Mr. Wolf, avec un manga qui s'appelle The Song About Green. The Song About Green, c'est une chronique sur la jeunesse qui capte avec beaucoup de justesse le moment flottant qui va entre l'adolescence et l'âge adulte. Ce moment un peu vague où on sait pas trop où on veut, ce qu'on veut faire, etc. Il y a aussi beaucoup de questions de culture pop japonaise. C'est aussi peut-être pour ça que ça m'a beaucoup plus. C'en est presque une déclaration d'amour hein, d'ailleurs. C'est le tout premier manga de Gao Yan, une autrice taïwanaise qui est née dans les années 90 et s'est publiée en France dans la collection Saka des éditions Casterman. La série est complète en deux volumes qui ont été publiés simultanément pour faire environ 500 pages et elle a été prépubliée et à Taïwan et au Japon également. Le pitch de Song About Green, on est avec Lou Lin, une lycéenne qui est réservée, qui vit dans une petite ville côtière proche de Taipei. Elle est sérieuse, elle est discrète, mais elle préfère se perdre dans la littérature et la musique plutôt que de s'imposer aux autres. Et un jour, alors qu'elle sèche les courses, qu'elle n'est pas non plus si sérieuse que ça, elle se promène au bord de la mer et elle aperçoit un garçon en pleurs sur un rocher. Elle n'osera jamais lui parler, mais cette image va rester gravée en elle pendant très longtemps, puis les années passent, et Lu devient étudiante, et elle emménage toute seule dans la capitale. Entre les cours qu'elle sèche et les disquaires qu'elle écume, les concerts, les concours d'écriture, elle va chercher sa voix sans vraiment la trouver, jusqu'au jour où elle pousse la porte du café Kafka by the Sea, où elle rencontre Nanjun, un jeune homme attentionné, musicien, avec qui elle partage un amour profond, donc, pour la culture pop japonaise, et notamment la musique. Et à travers cette rencontre et ses errances, Lou va peu à peu s'émanciper, affirmer ses passions et avancer vers ce qu'elle souhaite devenir.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce titre en particulier ?
C'est tout doux.
Oui.
C'est un récit très, très, très doux qui est presque qui est presque contemplatif, qui se lit comme un journal intime. En tout cas, moi, je l'ai lu comme un journal intime. Je sais pas si c'était la volonté, mais c'est ce que j'ai fait. Le manga capte vraiment bien, je trouve, les errements, les hésitations, les silences et les petits bouleversements de la fin de l'adolescence. Je trouve que Lou, elle est très crédible, elle est très humaine, elle m'a vraiment fait penser à des amis que j'ai eus, moi, à cet âge-là. Et alors qu'on n'est pas dans le même contexte, pas dans le même monde, j'ai eu cet écho là, puis il y a des références culturelles évidemment, références culturelles taïwanaises, mais références culturelles japonaises, littéraires, musicales, avec une place centrale qui a été accordée à Haruki Murakami, le bar, le café dans lequel elle va s'appelle Kafka by the Sea, et à la musique japonaise, notamment Haruomi Osono, qui est un artiste qui fait partie des musiciens les plus influents de tout un pan de l'histoire de la pop au Japon. Donc résultat, ça donne un manga avec une atmosphère qui est très marquée, qui est très nostalgique, avec pour cadre le début des années 2010 et ce petit côté vintage des disquaires, des petites salles de concert. Moi, ça m'a rappelé vraiment des super coins que j'avais visités à cette époque-là, justement dans les années 2010, à Tokyo, dans certains quartiers. Et graphiquement, je trouve que c'était vraiment très, très bien reproduit, très, très précis.
Ouais, moi, je t'avoue qu'en l'écoutant, j'ai tout de suite mis le Yellow Magic Orchestra. Et ça te transporte tout de suite dans les années 90 ou même 2000, effectivement.
Mais Yellow Magic Orchestra, qui est donc le groupe de Haruomi Osono, oui. Dont elle est fan.
Est-ce que tu veux ajouter un petit mot quand même ?
Ouais, le deuxième volume va conclure la série. On est donc dans un diptyque, mais on reste pas en suspens. C'est une vraie conclusion. Il y a une chouette postface aussi de l'autrice qui renforce l'impression d'un récit un peu personnel. On en revient à ce que je disais. Je l'ai lu comme un journal intime. la postface me donne l'impression que c'est un journal intime. Et puis je vous disais aussi qu'il était beaucoup de questions de Haruki Murakami, avec notamment dans l'œuvre donc le bar qui se nomme du nom d'un de ses romans, Kafka sur le rivage en français. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'en fait The Song About Green, c'est né d'un projet auto-édité de 32 pages à l'époque, qui avait été pré-publié sur internet, repéré par Haruki Murakami lui-même, qui a ensuite contacté Gao Yann pour lui proposer d'illustrer la couverture d'un de ses livres.
Oh, c'est classe. Vraiment.
Genre giga classe,
ouais,
quoi.
Ouais, franchement.
Et donc, reconnaissance précoce, hein, du coup, pour elle, qui a aussi contribué à l'essor du manga, à son développement aussi sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est une œuvre courte, déjà très aboutie, qui pose donc Gao Yann comme une autrice à suivre. Et ça tombe bien, puisque Casterman a eu la bonne idée de sortir une autre de ses œuvres qui s'appelle Tsukima, et ça arrivera au mois d'avril.
Non, on va retenir qu'elle s'est fait pistonner, quoi.
Okay. C'est ça. Mais là, c'est du gros bon piston, ouais, quoi.
Non, et puis c'est cool de voir que Casterman Saka a des super œuvres qui sont bien éditées. Il y a des postfaces, enfin, c'est des beaux livres aussi. Le Song About Green ou Les Guerres Invisibles, c'était impeccable.
La suite avec ton deuxième coup de cœur, Cagnard, ça s'appelle Crows.
Oui, alors Crows, édité chez Kana, même dans le label Dark Kana. Alors le pitch, très rapidement, on suit l'arrivée de Buya Harumichi dans le lycée Suzuran. Alors ce lycée, encore une fois, il est considéré comme le repère des délinquants de la région. Et donc Buya, c'est un mec qui sait vraiment se battre. Il est ultra balèze. Alors du coup, dans le lycée, quand une guerre des clans va éclater, Buya va involontairement y participer et surtout, il va bousculer l'ordre établi qu'il y a dans ce lycée.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga, si ce n'est que c'est un manga de furio ?
Eh ben, c'est un classique du genre, mais c'est un classique que moi, je n'avais jamais lu jusque-là. Et là, j'avoue que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Alors, je préfère prévenir tout de suite, on est vraiment dans du classique shit de furio, quoi. Ou si vous me connaissez un petit peu, théorie du shonen sportif de bagarre. C'est vraiment, comme d'hab, on commence à petite échelle, on affronte les caïds d'abord de la seconde, après de la première, après de la terminale, après on change de ville, on passe en régional, on passe en départemental et compagnie. C'est le truc vraiment classique. Et du coup, dans Crows, il y a un petit côté rétro, tu vois, qui peut plaire à certains, mais je me doute que le dessin, il peut rebuter au premier abord, parce que c'est quand même un petit peu à l'ancienne. Et c'est là que j'ai vraiment envie de m'arrêter. En fait, j'ai rarement vu un manga dont le dessin évolue autant en si peu de tomes. Et là, je te parle d'une évolution entre le tome 1 et le tome 4. C'est vraiment flagrant, même d'un tome à l'autre, quoi. Entre le 1 et le 2, c'est déjà très différent. Au début, tu vois, t'as un dessin qui est un petit peu cartoon, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce manga. Parfois, ça m'a rappelé le début de Slam Dunk, quand Inoue, justement, ne savait pas trop où devait aller sa série. Mais dès la fin du tome 1, t'as une double page qui est magnifique, avec une patate qu'envoie Buya, et là, t'as vraiment la double page, et normalement, ton œil de lecteur, il fait « Ah, tiens, il y a un truc là ». Cette double page, elle est vraiment impressionnante. Et plus t'avances, et plus tu vois qu'il travaille de plus en plus sur ses dessins, sur les visages, beaucoup, mais aussi sur le découpage. Et du coup, voilà, je voulais vraiment insister là-dessus et dissiper les doutes sur l'aspect rétro du dessin, parce que autant le scénario va pas forcément vous impressionner, mais par contre, je pense que vous pouvez vous retrouver rapidement sur le cul niveau dessin.
Mais je crois qu'il y a qu'un an d'écart entre Slam Dunk et Crows, hein. Ils sont vraiment contemporains à quelques mois, quoi.
Oui, ça m'étonne pas. Et si on voit la suite logique du dessin au niveau de Inoue, moi j'ai bon espoir que c'est vraiment que c'est peut-être pas le niveau d'Inoue, faut pas déconner, mais que c'est vraiment c'est vraiment très prononcé comme dessin, c'est très intense. Et ne vous fiez pas au tome 1. Laissez un petit peu de temps au manga. Et puis il y a un aspect que j'ai bien aimé, c'est que c'est un manga qui prend le contre-pied du personnage lambda de Furio. Tu vois, dans Crows, Buya, il veut absolument pas devenir le plus fort, le roi du lycée ou autre chose. Il est balèze, il est même très très balèze, mais limite, il fuit toutes les tentatives de former un gang, parce qu'évidemment, les autres vont voir qu'il y a un nouveau balèze qui arrive, ça va essayer de se rassembler autour de lui, de former un gang, mais lui, c'est vraiment pas son délire, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est se faire des amis. Bon, a priori, il a qu'un seul moyen de se faire des amis, c'est vraiment de leur coller des droites.
Mais c'est comme ça qu'on fait, non ?
Dans les lycées furieux, c'est comme ça qu'on a fait. Du coup, on arrive vraiment au seul point qui m'enquiquine un peu, mais qui est aussi la raison pour laquelle je vais continuer, c'est qu'à l'heure actuelle, au tome 4, on sait absolument rien du héros. Mais bon, faut pas déconner, je me doute que, tu sais, t'apprends le background des nouveaux amis qui se fait, bon, on va se le garder pour la fin, genre d'où il vient, comment ça se fait qu'il est aussi balèze. Mais là, c'est vrai que sur les 4 tomes, ça m'a un peu manqué de... j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui, quoi.
C'est considéré au Japon comme un manga culte. Est-ce que tu as un point bonus au sujet de Crows?
Double point bonus même. Alors la traduction, déjà, je la trouve très moderne pour un manga aussi vieux. Genre, il y a le mot bolos dans le manga. c'est bête, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Et en deuxième point bonus, exactement comme dans Baby, à la fin des tomes, t'as une interview de son tout premier éditeur. Et en plus, qui est fait en format gag manga. Et du coup, t'apprends plein de choses sur comment il a été édité, comment ça s'est passé le travail, et c'est hyper plaisant à la fin.
Ça fera 26 tomes en tout, et je te laisse le dernier mot sur Crows.
Alors, j'ai pas été full honnête, j'ai pas vraiment découvert Crows via le manga, parce qu'en fait, il y a déjà des films que j'avais vus, et que j'avais vus, alors maintenant ça remonte un petit peu.
Marita Cascos.
Pas du tout, non, il n'y a pas Marc Descascos dedans. Non, les films sont réalisés par le réalisateur psychopathe Takeshi Miike. Et pour ceux qui aiment bien les films de baston, il y a 3 films, mais c'est vraiment de la grosse, grosse baston. Alors les 2 premiers sont faits par Miike. Le 3e, je ne l'ai pas vu, c'est un autre réalisateur. Je pense qu'il doit être mauvais du coup. Mais en tout cas, c'est des bons gros films de bagarre. Donc je vous les conseille fortement, même si vous ne connaissez pas Crows. Moi, je les ai vus et j'ai adoré. Et si je ne dis pas de bêtises, en fait, c'est ce qui se passe avant Crows dans les films. La génération précédente des héros de Crows.
Merci Cagnard, je vous propose maintenant un petit point vente avec maintenant les nombres de séries différentes dans le top 100, parce que ça c'est assez révélateur aussi de quelle série est populaire et de quoi est composé le top 100 des ventes de manga en France. Il y a 20 séries cette année dedans.
C'est
pas mal, mieux qu'à une époque, ouais. Effectivement, ça montre un peu plus de diversité. Alors ça veut dire que soit les gros vendent un petit peu moins, soit qu'il y a un peu plus de choses, je sais pas,
oui.
Comment on le prend, j'hésite toujours. One Piece est donc premier de ce classement, évidemment.
Disons quand on voit ce qui rentre,
on va voir. One Piece est donc dans ce top avec 21 volumes dans le top 100 des ventes. Solo Leveling, du coup, qu'on intègre maintenant, qui est là avec
sa série.
17, le 6e départ de marche. Volume.
Bah oui, là c'est abusé. Vrai.
Mais c'est toute la série qui est là, quoi.
Oui, tout à fait.
Okay. Toute la famille.
Les 17 sont dans le top 100. Blue Lock arrive derrière avec 11 volumes dans le top 100. C'est pas mal du tout. Spy Family 9 dans le top 100.
Elle est plus de la moitié de sa série.
Les Carnets de l'Apothicaire 7 volumes. Là aussi ça montre que c'est quand même une licence qui est quand même bien dynamique. À l'inverse, par exemple Demon Slayer, il n'y en a plus que 5. Dans le top 100. Donc
c'est
ça commence mais ça se vend quand même toujours pas mal. Jujutsu Kaisen, on est à 4 volumes, My Hero Academia 4 volumes également. C'est les 4 volumes c'est 3 volumes de l'année plus le tome 1 quoi. Berserk 3 volumes. Naruto, toujours 3 volumes, les tomes 1, 2, 3 à 3 euros, classique. Minecraft.
Ah, j'ai mal pour Naruto là.
Le manga Minecraft, il y a 3 volumes aussi.
Autant que Naruto.
1, 2, 3, autant que Naruto.
J'ai mal pour toi.
Dragon Ball Super est toujours dans ce top avec 2 volumes. Kaiju numéro 8, 2 volumes. One Punch Man, pareil.
Oh là là.
Instinct, 2 volumes. Oui, mais bon, c'est numéro 1 et numéro 2 des ventes. Bon, ok. Et 100% de la série, effectivement. Puis ensuite, on a Kagurabachi donc, qui intègre ce classement. L'attaque des titans qui traîne dans le coin. Boruto, c'est le nouveau tome 1. C'est Blue Vortex.
La suite de la suite.
Non, je sais plus si c'est la suite.
Bloom est dans ce classement.
Allez, bien, ouais, je le top 2.
Bloom est dans ce classement. Alors, il est sur la fin du top 100, mais il est dans le top 100 des meilleures ventes de manga. Et puis, Stitch Ami pour la vie est également dans ce top. Robin, un avis ?
C'est le meilleur
Stitch
titre.
Stitch Ami pour la vie ou...
Oui, sur Stitch, globalement.
Je n'ai pas lu.
Voilà. La suite de cette émission, c'est avec ton deuxième coup de cœur, Julie. Un manga qui s'appelle Bota Bota, signé Paru Itagaki.
Oui, alors Paru Itagaki, c'est l'autrice de Beastar, entre autres. Et donc là, elle nous avait proposé un one-shot publié chez Kiun. Et dans cette histoire, on suit donc... une jeune trentenaire, Mako, qui vit un drame. Malgré tous ses efforts pour séduire, attirer la gente masculine, elle est toujours vierge. Et en cause, c'est un refus viscéral de la saleté qui se manifeste par des torrents de sang éjectés par son nez. Dès qu'elle s'approche de quelque chose qui lui donne l'impression de saleté, Mako se vide littéralement de son sang. Et la grande question est donc... réussira-t-elle à surmonter tous ses dégoûts, toutes ses appréhensions pour rencontrer le véritable amour?
Et alors?
Eh bien écoute, ce que moi j'en ai tiré, c'est une très grande joie, c'est une joie féroce. Il y a vraiment une espèce d'appétit vraiment un point levé avec le doigt du milieu levé bien haut, tu vois. Vraiment, c'est quelque chose qui prend aux tripes, qui vraiment a une énergie très très vraiment réjouissante, quoi, d'avoir aussi cette espèce de sentiment qui doit être partagé par bien des lectrices japonaises et qui ont une espèce d'envie de se réapproprier des choses dont on les prive dès leur plus jeune âge, qui serait leur corps, leurs sensations, leurs sentiments parfois, puisqu'on va apprendre que Mako, elle a grandi aussi dans une espèce de lavage de cerveau permanent, les hommes sont sales, sexualité c'est un peu impur. Enfin, il y a vraiment toute une espèce de remise en question des discours qu'on peut entendre parfois, suivi aussi de cette double injonction d'être à la fois, on va dire, pur, mais de devoir assumer certains désirs. Et donc, je trouve que c'est vraiment une proposition très réjouissante de ce que peut être le shoujo ou le josei à notre époque. Et donc tout à l'heure, Johnny parlait de Bloom, d'avoir des papillons dans le ventre, de voir une romance très mignonne, très bienveillante, on va dire. Mais là, on est dans l'envers de la pièce, de dire ouais, on est aussi vivante et on veut assouvir des désirs avec parfois des pulsions qui peuvent être très violentes.
Sachant que ça a été pré-publié dans le Goraku, dans lequel on pouvait lire Gannibal, par exemple.
Oui, c'était pas du tout mièvre, c'est pas du tout... Enfin, mais enveloppé de cette espèce de joie très féminine de dire... Il y en a marre, on balaye la table et on y va franchement. Et on voit Mako courir dans la rue derrière des gars qui sont effrayés parce qu'elle leur propose juste de faire d'elle une femme et en fait ils sont là genre ah non c'est dégoûtant, t'es barré, enfin, et il y a toute cette remise en cause en fait de est-ce que quand on est une femme et qu'on dit clairement ce qu'on veut, on passe pour une folle.
Et ce manga, il est lié à une autre de ses œuvres.
Oui, parce que on a la chance en tout cas dans l'édition française d'avoir le manga en quelques pages qui a servi d'origin story pour Sanda, donc la nouvelle série en cours chez Kiyun de Paru Itagaki, et qui raconte l'histoire d'un Père Noël un peu pareil, hein, on sait pas trop, toujours un peu violent, toujours un peu sur la brèche dans un monde qui n'est jamais tout blanc, tout noir. Et ça, c'est très très drôle ce qu'elle fait, parce que oui, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est drôle. Enfin, il y a vraiment une volonté de rire de ce qu'on fait malheureusement subir parfois à certaines personnes et de rire avec elles, de tout envoyer valser.
Donc Bota Bota, c'est un one shot manga en un seul tome avec une histoire donc courte en bonus de Paru Itagaki. Je te laisse le dernier mot.
Bota Bota, j'ai appris que c'était aussi un spa dans un quartier du Vieux-Port à Montréal. Voilà, c'est tout. Non, mais jamais.
Mais si vous habitez à Montréal, dites-nous si Bota Bota, ça vaut le coup
c'est
comme
cool.
Comme
voilà.
Ils vendent les mangas là-bas.
Je pourrais faire un partenariat, je sais. Tout ça pour dire, on en avait beaucoup parlé. Moi, je suis très contente de ces formats one-shot qui permettent aussi à leurs auteurs d'avoir une respiration et de faire vraiment des choses où tu sens qu'ils s'éclatent.
Merci Julie. Du one shot, il y en a aussi avec toi Robin. Et plus qu'un one shot, c'est même un diptyque d'histoires courtes signé Boichi SF Short Stories.
Ouais, c'est technique, hein. Un diptyque d'histoires courtes. Ouais.
Non, en gros, c'est des histoires courtes dans deux bouquins, quoi. Oui, vous mettre des mots compliqués, quelle idée.
Je vais vous parler de Boichi SF Short Stories, qui est donc effectivement deux recueils d'histoires courtes, ce qui fait, si mes calculs sont exacts, 14 histoires en tout. Des histoires de science-fiction signées Boichi avec des commentaires, des anecdotes aussi de création de l'auteur qui peut avoir sur les différents segments qui parcourent ses ouvrages. Et c'est donc une exploration de la science-fiction par cet auteur avec des sujets aussi variés que la dystopie, le voyage stellaire ou encore la rencontre avec d'autres créatures.
Et là, il est assez créatif dedans.
Ouais, bah moi, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Le format nouvelle, c'est un format que j'aime beaucoup. Julie parlait de one shot. Je trouve que c'est un peu le même type d'exercice, c'est-à-dire comment un auteur va ou une autrice va avec un espace réduit finalement, amener aussi son imaginaire. C'est vraiment un exercice de style de synthèse que je trouve assez passionnant, parce que ça permet aussi d'amener des fois des sujets qu'auraient pas forcément pu être traités ou que l'auteur aurait pas forcément pu imaginer traiter dans une série complète ou une série longue. Et là, bah, il se dit, bah, en fait, ce sujet-là, il m'intéresse. C'est un peu comme une chronique d'humoriste, tu vois, genre, voilà, il va pas forcément faire un spectacle entier sur ce sujet-là, mais il se dit, bah voilà, je fais un petit 5 minutes là-dessus. Bah là, c'est un peu le même truc, c'est il a ce sujet qui lui tient à cœur, il a envie d'y consacrer une petite histoire. Ça peut être même aussi des idées, je pense, visuelles et tout, et je trouve que c'est vraiment le cas ici. C'est bon, après, c'est une anthologie, hein, donc il y a à boire et à manger, il y a des histoires plus profondes et des histoires beaucoup plus anecdotiques, mais je trouve que dans l'ensemble, le talent narratif de Boichi, il arrive vraiment à emporter le tout, il jongle vraiment... de manière assez habile entre eux, de la tension dramatique, des vrais enjeux vraiment philosophiques très très lourds, mais aussi des fois de l'humour complètement absurde, des situations comiques.
Boichi, c'est l'auteur qui a fait Sunken Rock ou qui a été dessinateur sur Dr. Stone.
Tout à fait. Et moi, tu vois, je suis pas un aficionado de son travail. Honnêtement, je connais même assez peu. C'est une carrière que j'ai même pas lu. Et voilà, je fais mon coming out. Et tu vois, Origin, par exemple, j'aime pas. Mais par contre, je reconnais que c'est un mec qui a un talent.
By Boichi,
si, en vrai, j'ai plutôt bien aimé. Mais je reconnais que ce que j'ai lu de lui, ça arrive aussi. Tu vois, genre Dr. Stone, j'adore. Son One Piece, je trouve assez cool aussi. C'est vraiment un auteur qui a une patte, quoi, tu vois. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qui finalement emporte le truc sur le travail de ces deux ouvrages. Et puis, bah, ça fait réfléchir, hein, comme on dit. Tu vois, t'as vraiment des histoires, tu les lis, ça fait 10 pages. Des fois, c'est un peu con, mais à la fin, tu vois, genre... Il y a Hôtel, qui est peut-être le premier récit du tome 1.
D'ailleurs, Hôtel, ouais, qui avait donné le nom d'un recueil il y a plusieurs années.
Tout à fait, c'est la même chose.
J'en parlerai dans ma dernière info.
Tout à fait.
Ok, d'accord. Okay. J'espère, hein, parce que 2011, on se fera pas la chance.
Wait for it.
Je vais préciser tout ça. Mais en tout cas, c'est effectivement ce récit-là est potentiellement, je pense, le plus marquant. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'à l'époque, il avait donné le nom au recueil. Mais t'as aussi, moi, j'adore celle du mec qui veut à tout prix faire revivre les tons. Tu vois, genre, ça a l'air con, mais en fait, ça raconte vachement de trucs sur l'extinction d'une espèce, l'impact de l'humanité sur son environnement et tout. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment un travail pour moi qui n'a l'air de rien parfois, qui est dans la légèreté, mais qui à la fin va te faire vraiment un peu exploser ton cerveau et tout. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Et en plus, j'aime bien parce que finalement, c'est aussi un recueil de nouvelles, mais où l'auteur s'autorise à laisser parfois les récits s'entrecroiser un petit peu. Il y a des chronologies où on ne sait pas trop si des fois le recueil ne se passe pas dans le même chronologie d'une histoire précédente, etc. Et tout ça fait aussi travailler ton imaginaire, bien qu'au final, à la fin, les histoires ont chacun leur unité propre et tout. Mais moi, je trouve que honnêtement, c'est un vrai plaisir. Si vous aimez la SF, si vous aimez le travail de Boichi, c'est un incontournable, quoi, pour moi.
Et alors, est-ce que tu as un petit point en plus, justement, comme on parlait de Joe?
Ouais, le petit bonus, c'est justement, on parlait de Dr. Stone, c'est un ouvrage qu'ils ont proposé chez Glénat en parallèle du dernier tome. Enfin, du dernier tome de Dr. Stone. Et je trouve que c'est une lecture intéressante à avoir en parallèle parce que c'est vraiment... on sent, en fait, dans les deux œuvres, un point commun qui est un peu la passion des sciences, quoi, tu vois, de la science et de l'intelligence humaine. Mais c'est pas du tout traité de la même manière. Alors certes, Dr. Stone, il y a un scénariste, mais il y a un côté vachement plus neketsu dans Dr. Stone, c'est beaucoup plus plus grand que tout, quoi. Et là, c'est beaucoup plus sérieux, on va dire, ou beaucoup plus adulte ou mature, quoi, comme manière de traiter le truc. Mais j'aime bien, je trouve que lire les deux en parallèle, c'est assez intéressant, quoi.
Si vous aimez Boichi, sachez aussi qu'en fin d'année dernière aux éditions Doki Doki, il y a un bouquin qui s'appelle Les secrets du dessin manga de Boichi qui est sorti également. Robin, dis-nous tout. C'est quoi cette histoire avec Hôtel, alors?
Oui, alors je finis là-dessus, effectivement. Donc, si vous avez acheté et si vous avez encore ce fameux recueil qui s'appelait Hôtel, qui était sorti, je crois, en 2008.
Je l'ai
chez Glénat.
Alors, c'est 2008 au Japon, mais 2011 en France.
Ok. Et en tout cas, c'était un... c'est effectivement très voisin, puisqu'en fait, il y a des histoires... En fait, Hôtel, de mémoire, il y avait 5 histoires dedans, alors que là, dans le premier tome, il y en a 8. Donc déjà, vous avez 3 histoires inédites dans le tome 1 de Boichi SF Short Stories, Et en plus, vous avez le tome 2 qui, là, pour le coup, est que de l'inédit, me semble-t-il. Et surtout, ce que je trouve cool, c'est qu'il n'y a pas que les histoires en plus, c'est que la nouvelle édition, il y a aussi bah, tout ce que je disais au début, c'est les commentaires, quoi. Le côté, c'est vraiment l'édition Director's Cut ou augmentée de Hotel, quoi. Donc en fait, même si vous l'avez, je pense que ça vaut le coup de prendre ces nouvelles éditions. Quoi.
C'est en deux tomes aux éditions Glénat, Boichi, SF, Short Stories. Merci Robin, merci à tous d'avoir livré et délivré vos coups de cœur. Moi, pour conclure cette émission, alors qu'on parlait de French Touch dans le top de la semaine dernière, là, on a la Taiwan Touch. Ouais. On a la Taiwan Touch ouais. cette semaine. Moi, j'en ai deux, la déjà. Moi, j'ai fait 100% Taiwan.
Il y a Baby.
Kanyar a mis Baby dedans. Voilà. Donc, en fait, je vois deux choses là-dedans. Soit, je me suis totalement lassé à force de lire les schémas narratifs japonais. Ou alors, l'internationalisation du manga est définitivement lancée. Ça y est.
Oui.
Ouais.
French, Taiwan, la totale, quoi.
Je pense
bah oui,
premier.
Et même États-Unis avec Guerre Invisible.
Je pense que je me suis
ouais,
lassé,
je pense
c'est
que
ça.
Lassé. Bah, comme moi, hein. Moi, ça fait pitié. Hein. Moi, j'ai deux tranches de vie,
ça
là.
Fait pitié. Oh.
Deux tranches de vie romance.
Non, mais t'en avais la semaine dernière, t'en as deux cette semaine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Joe?
Non, mais moi, c'est ma conclusion, je crois que je ne l'ai pas assez défendu, mais vraiment, Bloom, c'est un titre qui m'a vraiment marqué par sa pureté. C'était assez incroyable. Et je pense que je vais en parler plus dans une émission à part. Seul.
Julie, Cagnard, Robin, quelles sont vos conclusions?
Bah moi, je trouve que c'est assez marrant, c'est un peu un hasard, mais au final, mes deux coups de cœur sont très axés SF. Tu vois, il y en a un, bon, c'est du steampunk qui n'est pas vraiment du steampunk, et l'autre, bah, c'est clairement presque de la hard SF.
C'est donc une année comme une autre.
Bah non, je sais pas. Bah ouais, alors c'est un genre que j'aime beaucoup, mais voilà, je trouvais ça marrant de me dire que j'ai deux coups de cœur très axés SF. Est-ce que finalement j'ai envie de me projeter dans un futur plus ou moins désirable? Je ne sais pas par rapport à ce qu'on vit actuellement, mais c'est marrant.
Julie et Cagnard, vos coups de cœur sont-ils habituels?
Bah moi oui, c'est exactement comme d'habitude, et c'est comme Joe d'ailleurs quoi, la bagarre avant tout, la bagarre des sentiments, la bagarre des points, voilà, il y a plein de bagarres différentes. Mais non, mais comme d'habitude, bah, de toute façon, j'avais déjà dit dans la précédente émission, je trouvais que l'année elle a été hyper intéressante. Et cette année par contre, ce qui a été un petit peu différent, c'est que les coups de cœur que j'ai donnés dans cette émission, bah, je les aimais moins que mes tops de la semaine dernière, tu vois. Alors que d'habitude, c'est toujours l'inverse. J'ai toujours mes chouchous qui sont devant, alors que, bah, en vrai, je mets personne devant Yon. Personne ne s'assoit à la table de Yon, qu'on soit d'accord.
On vous publiera sur les réseaux sociaux.
Non, déplaise à Maximilien, le hater de Yon, qui déteste la création et les femmes.
On vous publiera sur les réseaux sociaux nos tops personnels.
Il est passé
celui-là. Julie, oui. Le mot de la fin est pour toi dans cette émission.
Merci. Bah écoute, moi j'ai fait dans le human drama, comme on dit en japonais, puisque voilà, le tranche de vie, mais un petit peu engagé quoi. Et je trouve que c'est sympa d'avoir aussi une tranche de comment on dit, de la création japonaise malgré tout, qui reste sur un manga très très inventif et très très qui dit ce qu'il a envie de dire et pas qui essaye de rentrer dans des moules ou qui coche des petites cases pour rester dans les charts de certains gros magazines par exemple.
C'était nos coups de cœur manga perso de cette année 2025. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Vous oubliez pas, une petite note, un petit partage. Et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois pour parler de classiques et de rééditions pour le bilan 2025. La dernière émission bilan avant de passer au manga de 2026. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne lecture.
Merci.
Salut. Salut.